VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. 26 soldats égyptiens ont été tués ou blessés aujourd'hui dans une vague d'attaques, dont des attentats à la voiture piégée contre plusieurs barrages dans le nord du Sinaï, a indiqué l'armée dans un communiqué. L'armée égyptienne a affirmé avoir tué 40 des assaillants lors des affrontements avec des combattants extrémistes dans la région où sévit la branche égyptienne du groupe État islamique. Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux des attaques au sud de la localité de Rafah, proche de la frontière avec la bande de Gaza, ont précisé des responsables de la sécurité égyptienne. Au Cameroun, plus multiplication ces derniers jours des attentats suicides des islamistes nigériens de Boko Haram. C'est ainsi que depuis samedi, trois localités situées près de la frontière avec le Nigeria ont subi des attaques meurtrières. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Mora, dans l'extrême nord camerounais, repris ici par Lionel Gaïma.
Les attaques suicides ont repris depuis fin mai, une augmentation qui a coïncidé avec le mois du Ramadan. Pour les hauts gradés de l'armée, cette recrudescence est aussi liée aux opérations militaires en cours le long de la frontière. Le mois dernier, le général nigérian Lakilio Irabor a pris le commandement d'une force multinationale de 7000 hommes. Depuis, ses troupes ont organisé des raids sur les dernières poches contrôlées par Boko Haram afin d'éradiquer le terrorisme le plus vite possible. Pour le commandant des troupes camerounaises au sein de cette force régionale, le général Bouba Dobekrio, certains kamikazes ont pu s'échapper pendant des raids et entrer au Cameroun déguisés en réfugiés ou comme des personnes déplacées.
Il y a actuellement un afflux massif des réfugiés vers le Cameroun que nous allons conduire au Nigeria avec leur appui. Nous avons récupéré beaucoup de matériel détruit, le dépôt de munitions de Boko Haram, nous avons détruit les véhicules.
Le gouvernement de Yaoundé dit avoir déployé plus de troupes le long de la frontière et fourni plus de matériel de communication au groupe d'autodéfense afin qu'il puisse signaler toute activité suspecte. Le conflit avec Boko Haram a déplacé près de 200 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, dans le nord du Cameroun qui abrite aussi quelques 75 000 réfugiés nigérians ayant traversé la frontière pour échapper aux violences.
Dans un rapport de 30 pages paru ce vendredi, Amnesty International détaille plusieurs cas d'atteinte à la liberté d'expression et de violation des droits humains au Rwanda. L'ONG associe la restriction des libertés politiques et individuelles au régime de l'actuel président Paul Kagame. Idrissa Seydou Dia.
Amnesty International dénonce, dans un rapport publié aujourd'hui, des attaques répétées depuis 20 ans contre l'opposition, les médias et les défenseurs des droits de l'homme qui ont créé un climat de peur dans le pays. Attaques qui ont créé un climat de peur dans le pays à l'approche de la présidentielle du 4 août. Le rapport de l'ONG est intitulé « Rwanda, un pays en proie à des attaques, des actes de répression et des homicides depuis 20 ans, va élire son nouveau président ».
Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, a été reconduit à la tête du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, au pouvoir pour une durée indéterminée à l'issue du 6e congrès ordinaire du parti. Le président Teodoro Obiang, âgé de 74 ans, demeure aussi, à la suite du congrès, le candidat du PDGE à l'élection présidentielle de 2022. Les résolutions du congrès ont déjoué tous les pronostics sur la succession du président Obiang à la tête du parti. Tout le monde s'attendait à ce que Théodorin Obiang, en procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis, soit nommé successeur de son père. En Côte d'Ivoire, c'est la période des concours d'accès à la fonction publique, mais très peu d'élèves et étudiants candidats à ces concours croient en leur chance de réussite. Selon eux, la corruption a pris le dessus sur le mérite. Précision de Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, tout le monde en parle et est convaincu. Pour être admis à un concours d'accès à la fonction publique, il faut délier les cordons de la bourse, payer de l'argent pour espérer être sur la liste des élus. Augustin Siri est étudiant.
Par rapport à ma fiancée, nous, qui est entrée au concours CAFOP, j'étais obligé de déposer une somme de 400 000 francs CFA. Auparavant, à trois reprises, j'avais payé, elle avait échoué. Mais cette fois, l'année dernière, j'ai payé 400 000 francs encore, puis voilà, elle était admise. à son concours.
Autre témoignage, celui de Kwebi qui explique ici ses différents échecs.
Auparavant, j'ai présenté le concours de jeune Amérique, qui n'a pas marché. Et également le CAFOP, qui n'a pas marché. Mais je connais des personnes qui ont donné de l'argent et qui ont reçu le concours. Donc je suppose qu'en Côte d'Ivoire ici, les méritants n'ont pas le concours. C'est ceux qui ont l'argent qui ont le concours.
Donc vous pensez que si vous aviez donné de l'argent, vous seriez admis?
Il y a payé de l'argent, mais il y a aussi à qui payer de l'argent. Donc c'est un réseau qu'il faut vraiment trouver.
Après plusieurs échecs, Kwebi a décidé de ne plus remettre le couvert.
Moi, j'ai arrêté le concours parce que je pense que c'est inutile, puisque je n'ai pas d'argent et puis je n'ai pas la bonne personne à qui il faut donner. Donc mieux vaut ne pas me fatiguer avec le peu que j'ai.
Les témoignages sont nombreux et la pratique, dit-on, ne date pas d'aujourd'hui. Les concours les plus prisés sont ceux relatifs à l'école de la police, l'école de la gendarmerie ou encore le CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique, l'école qui forme les enseignants et éducateurs du scolaire. Yeo Poruban est fonctionnaire. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a fini par avoir gain de cause sans avoir, dit-il, déboursé le moindre centime.
Pour un concours de 50 à 20 places, on a des milliers de candidats. Pour 50 places, s'il y a des milliers de candidats, ça dit qu'il y a des milliers aussi qui vont perdre. Et comme ça, on se dit que c'est par voie de corruption, il faut payer pour être admis.
À la direction des examens et concours, la DECO, on réfute l'existence d'une filière liée à la corruption. Cependant, certains de nos interlocuteurs admettent avoir eu vent de cette pratique. En attendant que les choses changent, Augustin Siri veut lancer ce cri de cœur.
C'est un cri de cœur pour nous, les pauvres, qui n'avons pas assez de moyens pour pouvoir payer le concours. C'est difficile pour nous. Arrivé à un certain âge, les parents ne s'occupent plus de vous. Vous avez de vous-même vous prendre en charge. On nous avait dit que ça allait gâter des chances. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là.
Alassane Ouattara avait promis une lutte sans merci contre ces pratiques. La réalité est tout autre, 6 ans après son avènement au pouvoir. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a rencontré pour la première fois aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont échangé une première poignée de main et quelques mots en fin de matinée avant d'entamer une séance de travail à Hambourg en Allemagne avec les chefs d'État les plus puissants du monde. Ils doivent se retrouver pour une véritable discussion afin de discuter des nombreux sujets de crispation entre les deux pays vers 13h45 GMT. Les enjeux de cette rencontre Poutine-Trump avec Solange Niamoulissa.
Le premier face-à-face Trump-Poutine aura lieu en marge du sommet G20 à Hambourg en Allemagne. Pour le Kremlin, les deux hommes vont parler de la lutte contre les terroristes, la Syrie et l'Ukraine. La Maison-Blanche assure de son côté que le président Trump va décider du sujet des discussions, qualifiant la réunion de rencontre bilatérale normale. Stéphane Sestanovich du Centre de réflexion Council on Foreign Affairs.
Le président a ses propres impulsions. Il pourra décider d'orienter la réunion vers une direction inattendue. Nous devrons être préparés à cela. C'est son style.
Mais l'enquête en cours sur l'ingérence russe en collusion éventuelle avec la campagne de Trump jette une ombre sur les espoirs d'amélioration des relations entre Washington et Moscou. Anna Torbon de l'Institut Hudson.
Tout ce qui va se passer entre Trump et Poutine sera perçu dans ce contexte. Trump a-t-il été trop amical ou essayait-il plutôt d'être ferme avec la Russie pour calmer les critiques? Je pense que toutes ces questions auront des réponses sous peu.
Mais peu de gens s'attendent à ce que Trump soulève la question du piratage informatique russe qui, selon les services de renseignement américains, ont aidé le président américain à se faire élire. Dans les rues de Moscou, les Russes continuent d'espérer qu'après la rencontre des deux leaders, les relations vont s'améliorer.
De nouveaux heurts ont éclaté vendredi matin en marge du sommet du G20 à Hambourg. Des manifestants incendiant notamment des voitures de police. Selon les autorités allemandes, jusqu'à 100 000 manifestants devaient battre le pavé sur plusieurs jours en marge du sommet du G20. Les manifestants entendent empêcher l'accès des chefs d'État au centre des congrès. Et puis, un traité interdisant les armes nucléaires devrait être adopté aujourd'hui aux Nations Unies, malgré l'opposition des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et d'autres puissances nucléaires qui ont boycotté les négociations. Les partisans du traité y voient une réalisation historique, mais les États nucléaires le jugent irréaliste, estimant qu'il n'aura aucun impact sur la réduction du stock mondial actuel de quelque 15 000 têtes nucléaires. Amenés par l'Autriche, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, 141 États ont pris part aux trois semaines de négociations du traité qui préconise une interdiction totale du développement, du stockage et de la menace d'utilisation d'armes nucléaires. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes, il sera présenté par Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.